Métaphysique à Fribourg, le 17 mai 83, quatrième cours.
C'est ce que représente cet aspect génétique de la personne, puisque la personne représente une manière d'exister. Quand il s'agit d'une manière d'exister, une manière de vivre, une manière d'être, il faut toujours regarder l'aspect génétique. C'est important, on va dire une méthode, hein. Quand il s'agit de l'analyse des principes, on analyse et analyse les principes, mais pas l'aspect génétique. Dès que vous êtes dans le comment, il y a tout de suite l'aspect génétique qui est là. Et vous êtes obligé de compléter ce que vous avez saisi par l'aspect génétique. Je ne sais pas vraiment ce que c'est que la personne humaine quand je le regarde vivant, substance, esprit. Et sinon, on va très bien la définition de Boès. C'est très bien, mais c'est très. On comprend très bien comment, de fait, en face de la définition de Boès, on est insatisfait, c'est pas suffisant. On doit comprendre le comment du comment de la personne. Vous voyez ? Parce que toujours le comment réclame l'aspect génétique. Au point de vue méthode, c'est très important de se rappeler ça. Alors, l'aspect génétique, le premier moment embryonnaire de la personne. Nous devons nous poser la question, est-ce que de fait, dans l'embryon, y a-t-il une personne ? C'est un problème très actuel, ça a été très discuté récemment encore. Est-ce que dans l'embryon, y a-t-il une personne humaine ? Alors, je me place d'un point de vue philosophique, je ne me place pas d'un point de vue chrétien. C'est différent, d'un point de vue chrétien. Je me place d'un point de vue philosophique. D'un point de vue philosophique, je peux dire que l'âme spirituelle est ce qui constitue essentiellement l'autonomie de la personne. Même s'il n'y a pas développement de l'esprit, il y a autonomie de la personne par le point de vue substantiel. Or, l'âme spirituelle, c'est la substance liée au corps, ou infusée dans le corps. Donc, cette âme spirituelle, même si le corps est très peu développé, s'il est tout petit, elle est embryonnaire. Et être embryonnaire, ça peut être très bien, parce que ça peut aller jusqu'à la première de la conception. L'âme spirituelle liée au corps dans son état embryonnaire constitue bien l'autonomie substantielle de la personne. Donc c'est l'état imparfait, mais ça constitue une personne. Je n'ai pas le droit de dire que ça ne constitue pas une personne. Si je ne voyais que l'aspect esprit, si je ne voyais que l'aspect conscience de l'esprit et opération de l'esprit rejoindre sa finalité, si je définissais la personne uniquement par le fait de rejoindre sa finalité, à ce moment-là, je dirais, l'état embryonnaire n'est pas une personne. Mais si je définis la personne premièrement par une substance individuelle, et que c'est cela qui constitue l'autonomie de la personne et donc son altérité, ce par quoi elle est constituée comme personne, même si elle n'atteint pas sa fin, s'il n'y a pas de développement encore de la fin, exactement comme un handicapé. Dans un handicapé, il y a un esprit substantiel, mais il ne peut pas développer son esprit. Là, je n'ai pas une personne. C'est une personne. Oui, exactement comme un handicapé. Du reste, c'est très connu, c'est que les positions, exactement les parallèles. Si c'est quelqu'un qui est humain handicapé, on peut le supprimer, c'est pas une personne humaine. Attention. Y a-t-il une âme spirituelle ? Alors la question très difficile, hein, au point de vue philosophique, c'est de savoir quand l'âme spirituelle est-elle présente ? Au point de vue philosophique, c'est une très grande question. Une question très délicate. Parce qu'au point de vue au point de vue philosophique, je peux me poser la question, est-ce que cette âme spirituelle, est-ce qu'elle vient des parents? Si elle vient des parents, elle venait des premiers de la conception. Alors je suis obligé de dire que l'âme spirituelle ne peut pas être donnée par les parents, au point de vue philosophique. Je ne suis pas source d'une âme spirituelle. Et les parents ne sont pas source de l'âme spirituelle. Donc l'âme spirituelle, elle vient de l'extérieur, comme dit Aristote. Elle ne vient pas des parents. Et je pourrais préciser ensuite qu'elle vient de Dieu et du Créateur. Mais comme je ne suis pas encore à ce niveau, au point de vue découverte métaphysique, je peux simplement dire qu'il y a une âme spirituelle. Cette âme spirituelle ne vient pas des parents. À quel moment est-elle donnée? Je ne peux pas le préciser. Je peux dire qu'elle est donnée avant la naissance. Donc, tout l'état embryonnaire, tout l'état embryonnaire implique ou la présence de cette âme spirituelle ou l'orientation vers cette âme spirituelle. Au fond, ça n'a pas tellement d'importance, parce qu'il y a une unité intentionnelle. Et donc, tout l'état de la gestation implique une unité intentionnelle, une unité d'orientation. Et l'âme spirituelle, à quel moment vient-elle informer le corps? Je ne peux pas le préciser, je ne peux pas le dire d'une manière précise, immédiate, mais je sais que le corps, l'aspect biologique de l'embryon, est ordonné à la naissance. Et à la naissance, il y a nécessairement l'âme spirituelle. Je crois bien avant, mais je ne peux pas préciser pour le moment. Oui. Mais ça n'a pas tellement d'importance. Hein. C'est montrer tout simplement qu'il y a une première étape de la personne humaine et qui est dans un état imparfait. Mais il y a vraiment personne humaine. Vous voyez le raisonnement au point de vue philosophique. Il y a vraiment personne humaine, mais un état imparfait, puisque cette personne humaine n'atteint pas sa fin. Elle a une autonomie dans l'ordre de l'être, mais elle n'a pas sa perfection, c'est-à-dire elle n'a pas atteint sa fin. Si elle n'a pas atteint sa fin, elle est dans un état d'imperfection. Mais il y a une vraie personne humaine. À quel moment exactement l'âme spirituelle est-elle donnée, je ne sais pas, mais métaphysiquement, ça n'a pas d'importance. Il suffit de savoir que l'embryon est ordonné à la naissance. Et si l'embryon est ordonné à la naissance, toute la période de gestation représente tout simplement un état imparfait de la personne humaine qui est encore en dépendance d'un autre, mais qui a son autonomie dans l'ordre de l'être. Oui. Donc c'est la première période, premier moment important à bien saisir. Puis vous avez la naissance. Second moment, la naissance, c'est que, là encore, je suis en présence d'un état d'imperfection, puisque c'est un état de dépendance à l'égard des autres. Autrement dit, dépendance d'un autre milieu. Alors c'est par là, je crois, qu'on pourrait développer. C'est la question du milieu. Dans la gestation, le milieu est quelque chose d'essentiel. Puisque si, de fait, l'embryon est en dehors de son milieu, il meurt. Il est en dépendance directe de son milieu. En dépendance essentielle. Quand il naît, il y a déjà une certaine indépendance. Et cette indépendance grandira. Donc nous sommes en présence d'un développement de la personne humaine, développement qui vient de son corps, mais développement qui vient de son corps et aussi de son esprit. C'est pas seulement le point de vue du corps qui demande de grandir, c'est au point de vue de l'esprit. L'esprit est en dépendance du corps. C'est ça la chose très curieuse de la personne humaine. On est bien obligé de le reconnaître. Et alors, je suis en face encore, au moment de la naissance, d'un état d'imperfection. Mais d'une autonomie plus grande, et cette autonomie plus grande, je la juge en fonction du milieu. Donc, je peux dire ensuite, troisième moment, ce qu'on a appelé de manière classique l'âge de raison. C'est-à-dire quand je suis capable de poser un acte volontaire, je crois que c'est là, troisième moment, un acte volontaire où mon oui et où le non fait que j'en suis responsable. Je crois que c'est là où apparaît d'une manière très nette le premier moment de la volonté domina soumis. Elle a cette possibilité de s'orienter. Oui, le troisième moment de la formation de la personne humaine, c'est quand la personne humaine est capable de s'orienter, donc responsable de son orientation. Et dans la phase 2, je pourrais mettre l'apparition du sourire. C'est quand même très important. Parce que c'est l'apparition du sourire qui, je crois, est la première manifestation d'intelligence à travers le corps. C'est le premier moment de la présence. Le petit enfant est présent quand il sourit. Il est beaucoup plus présent quand il sourit que quand il mange ou que quand il dort. Quand il sourit, il y a une présence. Et c'est la première manifestation de la personne humaine. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas la parole. La première manifestation de la personne humaine, c'est le sourire. Et si il n'y a pas de souris, il n'y a aucun développement d'intelligence. Quand vous voyez quelqu'un qui est un état monstrueux ou un handicapé, il ne sourit plus. Un handicapé ne sourit pas. C'est quelque chose de terrible. Tous les handicapés qui ne sourient pas. Tandis qu'un enfant qui sourit, c'est la promesse. On se dit, ah oui, il comprend quelque chose. Vous n'avez jamais vu un petit singe sourire. C'est très difficile de voir un singe sourire. Même quand vous pouvez les apprivoiser, ils ne sourient pas. Ils vous donnent des coups de patte, mais ils ne sourient pas. C'est même si vous le prétendez. Il y a un chien non plus. Aucun animal ne sourit. Donc c'est la marque de l'intelligence. C'est intéressant parce que c'est la manifestation de l'intelligence, la manifestation de la volonté. Et la première manifestation est une manifestation d'intelligence. Ce n'est pas la volonté, c'est très curieux. Ça va dans le sens de l'autonomie. Vous voyez ? Alors, il faudrait développer, vous voyez, là il y a toutes les étapes successives à comprendre dans le développement de la personne humaine. Alors, l'état embryonnaire, dans la dépendance totale du milieu dans lequel on est comme du vital. L'état d'un milieu dont on est encore dépendant, mais cependant apparition de quelque chose, une indépendance et de la personne, dans le sourire. Premier dialogue. Et c'est vrai, c'est un premier dialogue. C'est extraordinaire le sourire d'un enfant. C'est extraordinaire. C'est quelque chose d'unique. Surtout quand vous pouvez attraper le premier. Parce qu'après, ça se répète, mais le premier sourire est la manifestation de l'intelligence à travers le point de vue sensible. Et donc la première présence, c'est la première présence. Une personne implique une présence en face d'une autre présence. Et ça, c'est le point de vue de l'intelligence. Et alors le point de vue de la volonté, c'est le point de vue de l'indépendance. L'orientation, je suis capable de m'orienter. Vous voyez, c'est le premier moment de la finalisation. Qui relève de l'intelligence et qui relève de la volonté de l'intelligence. Puis alors, ensuite, vous auriez à partir de là, à partir de la première fois, on peut dire non, et c'est très curieux que c'est le non qui manifeste plus que le oui. Hein? Tandis que c'est le sourire qui manifeste le premier point de l'intelligence. Et le sourire est positif. Alors, le sourire est lié à l'intelligence et à l'amour. C'est l'essence affective de ce qui fait sourire. C'est vraiment le point de vue de l'intelligence affective. Le point de vue du non, c'est le point de vue de l'intelligence dans son indépendance. Dans son indépendance. Alors vous avez ensuite tout le développement de la personne humaine. Jusqu'au moment de la mort. dernière étape. C'est une étape pour la personne humaine. Évidemment, alors là ça dépend, hein, parce qu'il y en a qui meurent plus ou moins vite, alors l'eau plateau est plus ou moins développée, la personne humaine est plus ou moins développée. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un développement de la personne humaine. Autrement dit, il y a un aspect génétique de la personne humaine. Je ne peux pas comprendre parfaitement ce que c'est que la personne humaine si je ne regarde pas cet aspect génétique. Et c'est cet aspect génétique qui me montre progressivement comment la personne humaine se développe du côté de son corps et du côté de son intelligence et de sa volonté. La mort va représenter quelque chose d'extrêmement important au point de vue de la personne humaine. Puisque la mort va être une brisure par rapport au milieu. Je quitte ce milieu pour entrer dans un autre milieu. Comme par la naissance je quitte le milieu maternel pour entrer dans le milieu cosmique, de même la mort me fait quitter le milieu cosmique de cet univers pour entrer dans un autre milieu que je ne connais pas. C'est le grand X pour le philosophe. Il y a un autre là. Alors là je rejoins ce que nous disions ce matin, c'est que la personne humaine continue dans cet au-delà. Mais je ne l'attends plus. Je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, depuis l'état embryonnaire jusqu'à la mort et dans l'au-delà, l'âme séparée. Je vois ce que c'est que la personne humaine. Et je vois tous les développements de la personne humaine. Et que ces développements peuvent être extrêmement différents. En raison du développement du corps, en raison du développement de l'intelligence, en raison du développement de la volonté. Et dans l'intelligence, tous les développements possibles, c'est-à-dire le développement artistique, le développement intellectuel, le développement philosophique, le développement religieux, le développement chrétien. Tout ça fait partie de la personne. Alors je comprends que se pose ensuite, à cause de ces développements, quelles sont les grandes modalités de la personne humaine. Alors, après cet aspect de développement, je peux me poser, et je crois qu'il faut se le poser, quels sont les grands développements de la personne humaine. Oui, c'est là aussi très intéressant à voir, parce que de fait, je vois que chacun se développe selon un rythme qui lui est propre. Même quand ce sont des jumeaux, ils se développent chacun selon un rythme qui est propre. Quand ce ne sont pas des jumeaux, c'est bien évident que le rythme est différent. Et le rythme est très différent et les résultats sont très très différents. Alors voyez, après avoir vu donc cet aspect génétique et ce développement de la personne humaine, qui montre la richesse qui existe hein, dans l'âme humaine, parce que c'est l'âme spirituelle qui fait ce développement. Ce n'est pas le corps qui commande ce développement, c'est l'âme. C'est l'âme qui commande ce développement. Alors évidemment, il peut y avoir des obstacles qui viennent du corps, ce sont les maladies, ce sont tous les virus qu'on attrape par le point de vue du corps et pas par le point de vue de l'âme, et qui alors font des arrêts, et qui font des empêchements de se développer normalement. La maladie. Et la mort. Le phénomène de la mort, hein, on doit l'étudier en fonction de ce que c'est que la personne humaine. Ça, c'est, je crois, très important. Autrement dit, il y a différents regards sur la mort. Il y a le regard sur la mort en philosophie du vivant, en considérant que le vivant comme tel un jour meurt. Il est né de tout développement. Et puis, au niveau proprement de la personne humaine, je dois considérer qu'est-ce que c'est que la mort. La mort touche-t-elle la personne humaine? Ou la mort est-elle uniquement quelque chose qui regarde la vie? Que la mort regarde la vie, c'est bien évident. Que la mort touche la question de la personne humaine, c'est aussi très évident. La personne humaine est allégée du corps. C'est ça la mort pour la personne humaine. J'espère. Donc la personne humaine qui s'est développée, la personne humaine qui s'est développée, parce qu'au fond, on pourrait se poser la question de la mort de l'embryon. La mort de l'embryon, l'âme humaine n'est pas encore très enracinée encore. Et le corps n'est pas encore très développé. Donc la séparation du corps est tout à fait autre. Et la séparation, après une longue vie, un enracinement beaucoup plus profond. Et la vraie question de la mort par rapport à la personne humaine. Je crois qu'il y en a un gros problème, vous voyez. C'est pour vous montrer que la mort, philosophiquement, doit être traitée au niveau du vivant, et la mort doit être traitée aussi au niveau de la personne humaine. Parce qu'au niveau du vivant, c'est la séparation de l'âme et du corps. C'est très simple. Au niveau de la personne humaine, vous comprenez que c'est autre chose. C'est au niveau du pos, de la manière dont j'existe. La mort ne regarde pas directement l'être. On l'a dit aujourd'hui beaucoup, hein. Rahner a fait un petit livre sur la mort en disant que la mort ne devait pas se comprendre au niveau de la vie, mais devait se comprendre au niveau de l'être. C'est faux. On doit se comprendre au niveau de la vie et au niveau de la personne. C'est pas la même chose. C'est au niveau du comment. C'est au niveau du comment de la personne, c'est-à-dire au niveau du composé. Au niveau du composé, c'est pas l'être. La mort ne regarde pas l'être. Les principes de l'être ne disparaissent pas avec la mort. C'est bien évident. Mais le collage de l'âme et du corps, hein, ça c'est autre chose. Et à ce moment-là, quelque chose qui se passe. Il y a un petit tremblement de terre. Et ce petit tremblement de terre fait que, nécessairement, la personne humaine, comme comment, implique quelque chose de spécial. Puisqu'il y a l'âme séparée. Je ne le constate pas, parce que je n'ai jamais vu une âme séparée. Et vous non plus. Moi, je ne crois pas. J'ai jamais vu une âme séparée, mais j'ai vu un corps séparé. J'ai vu un corps cadavre. Et si j'ai vu un corps cadavre, je peux dire qu'il s'est passé quelque chose d'une façon très curieuse quand, de fait, je ne suis plus en présence de la personne. Je ne suis plus qu'en présence d'un cadavre. Et quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une brisure. Une brisure qui n'est pas seulement au niveau de la vie, mais qui est aussi au niveau de la personne. Et c'est là où Rahner a quelque chose de vrai, quand il dit que la mort ne doit pas se regarder uniquement du côté de la vie. Alors je corrigerai, je dirais du côté de la vie et du côté de la personne. Et la mort ne doit pas se regarder uniquement du côté de la vie, mais doit se regarder aussi du côté de la personne. Parce que c'est la personne humaine qui est secouée. C'est la personne humaine qui doit, de fait, connaître cet état nouveau, je dis bien cet état nouveau, cette manière nouvelle d'exister, qui est d'être séparé du corps. Alors qu'il est comme naturel à notre âme de vivre uni au corps. Tandis qu'il n'est pas comme naturel à l'âme humaine, de vivre séparé du corps. Et donc, il y a un état particulier, un état nouveau, une manière nouvelle d'être, qui est d'être au-delà comme une âme séparée. Et là, nous avions vu ce matin que cette âme séparée n'est pas comme une personne. On ne peut pas aller plus loin dans une philosophie. Mais je peux ajouter qu'au point de vue théologique, il y a un nouvel état, la résurrection. Ça, c'est sûr. Et la personne humaine connaît alors à ce moment-là quelque chose de tout à fait nouveau, qui est une reprise, une recréation totale de tout. Donc, je crois que ça, c'est simplement pour vous rappeler qu'il y a un aspect génétique de la personne humaine. Et cet aspect génétique de la personne humaine, c'est très important de bien saisir. Troisième problème lié à la personne humaine, les diverses modalités de la personne humaine. Et c'est bien en métaphysique que je dois le faire, ça, les diverses modalités de la personne humaine. Puisqu'il y a un aspect génétique, on peut dire que la personne humaine peut se situer, peut se manifester de diverses manières. Alors, on pourrait voir quelles sont les possibilités pour la personne humaine de sa réalisation, des diverses réalisations de la personne humaine. Ce serait très curieux à bien voir ça. Mais là, on retrouverait et on pourrait assumer ce que Max Scheler dit. Alors, et lui, il le dit au point de vue féminologique, dans une perspective de la féminologie. Je crois qu'on peut le dire dans une perspective de philosophie réaliste, mais pas tout à fait de la même façon. Je dois voir que, puisqu'il y a un développement de la personne humaine, puisque la personne humaine dépend de son milieu et que la personne humaine va pouvoir se réaliser progressivement dans sa complexité. Je peux donc préciser qu'il y a diverses manières dont la personne humaine peut se développer. Et aussi, c'est normal, étant donné que nous sommes en face, encore une fois, du comment. Si j'étais en face d'un principe, il n'y aurait qu'une seule manière pour la personne humaine d'exister. Oui, c'est là où on voit très bien que là encore, il n'y a pas un principe propre de la personne. Parce qu'autrement, je ne pourrais pas assumer les diverses modalités des personnes humaines. Alors, je suis bien obligé de reconnaître. Alors, énumérons et essayons de comprendre. Énumérons les diverses modalités de la personne humaine. Et puis j'essaierai de les comprendre au point de vue métaphysique. Quelles sont les diverses modalités de la personne humaine? Premièrement, personne amicabilis. C'est la vie. Il y a des personnes qui sont aimables, amicabilis. Elles se font des relations d'amitié très facilement. Et puis il y a des personnes qui ne sont pas du tout amicabilis. C'est une porte pique, c'est quelque chose de particulier. Alors c'est pas du tout personne. C'est vrai, ça qu'il faut reconnaître. C'est un type de personne particulier. Dans la personne amicabilis, hein, l'amitié, la communication est très forte. Le dialogue. Ne définissez pas la personne par le dialogue. Vous définissez telle personne humaine, mais pas la personne humaine. Amicabilis, c'est un type de personne humaine. Je le dis très bien. Dans l'amitié, le dialogue tient une place très grande. On est heureux de se rencontrer. On est heureux de fêter les anniversaires. Oui, c'est une partie d'amicabilis, c'est sûr. Et on multiplie les fêtes. Oui, on multiplie les repas de famille, amicabilis. Ça existe, un type particulier, personne humaine. C'est pas le seul, heureusement, mais ça existe. Deuxième type. Je vous demanderai si j'en ai oublié. La personne humaine au niveau religieux. Les personnes humaines au niveau religieux. Qui n'est pas du tout la même que l'ami. La personne humaine religieuse, elle tend. Je ne dis pas vers un état de solitude, non. Mais c'est l'adoration. C'est cette relation particulière avec Dieu. C'est un service liturgique. Il y a des personnes qui font ça admirablement, ça fait partie de leur personne humaine. On va caractériser après quelles sont les notes dominantes de ces différentes personnes. Ensuite, il y a la personne contemplative. Je crois qu'on peut dire. C'est pas la même que la religieuse. Alors celle-là, elle est solitaire. C'est pas le religieux comme tel ou la personne humaine religieuse qui est solitaire. Tandis que la contemplation est signe de solitude. Et réclame la solitude. S'il y a des religieux qui mènent une vie solitaire, ce n'est pas en fonction de leur vie religieuse, c'est en fonction de leur contemplation. C'est important de bien voir. Il y a une espèce de solitude qui est exigée en fonction de la contemplation. Tandis qu'il y a des vies religieuses qui sont liées par la charité fraternelle dans un esprit de vie communautaire. Ça n'a rien à voir. Donc, quatrièmement, personne mène au niveau famille, le père et la mère. Je ne dis pas l'enfant, parce que l'enfant, il est fait pour se développer et sortir de la famille. Donc, ce n'est pas une personne humaine. Ça fait partie des temps embryonnaires. Nous avons vu tout à l'heure. Il a besoin de la famille comme étant embryonnaire. Mais quand il grandit, il sort de la famille. Et quand il reste et qu'il grandit dans la famille, il y a un moment où il n'en peut plus. Il étouffe. S'il n'est pas capable lui-même de sortir du sein maternel, alors on est obligé d'opérer. Ça fait partie d'une... On le sait bien. Parce que c'est... Et là, il y a deux... Je ne parle pas uniquement là... l'opération pour la naissance, mais je parle pour sortir de la famille. Quelquefois, des opérations pour sortir du milieu familial. On n'est pas à décoller des familles. On est tellement liés ensemble qu'on n'arrive pas. Le père et la mère sont tellement captatifs l'un et l'autre que impossible de sortir. Vous voyez, c'est pire que de ne pas sortir du sein maternel. C'est quelque chose de plus terrible. Alors, il y a le père et la mère. Le père et la mère représentent des types de personnes différentes. Ça, c'est sûr. Il y a une personnalité qui est liée au père et mère. Cinquièmement. Ah, il y a l'artiste. C'est sûr. Il y a une personne humaine qui est la personne de l'artiste. Très spécial. Un artiste a une personnalité. Mais vous le direz, il y a une personnalité particulière. Et ici, je le saisis au niveau philosophique. Je ne dis pas personnalité, je dis une personne d'un type spécial. On verra, on justifiera ça ensuite en philosophie. Je constate. Ici, je fais un plan de l'énumération. Je constate. Sixièmement, y a-t-il une personne au niveau scientifique? Je n'ai pas d'interrogation. Parce que je ne sais pas. Mais un rat de bibliothèque, hein? Est-ce que c'est une personne humaine? Quelqu'un qui vit tout le temps et tous ses bouquins, non? Est-ce que c'est une personne humaine? Est-ce que c'est un type de personne humaine? Est-ce qu'un chercheur, est-ce que c'est un type de personne humaine? C'est très difficile à savoir. Et c'est très important, parce que s'il n'y a pas de type de personne humaine, vous comprenez, c'est ennuyeux, non ? Il s'ennuiera au bout d'un certain temps. Il s'ennuiera. Quand il n'aura rien découvert, il s'ennuiera. Quand il aura découvert quelque chose, il pourra encore à la rigueur. Alors, septièmement, est-ce qu'il y a un septièmement ? Est-ce que nous avons saisi tout point de vue ? Vous allez voir. Septièmement, l'homme politique. Ce que les anciens appelaient le sage. L'homme politique, ce que les anciens appelaient le sage. Le législateur. L'homme qui fait les lois et qui les applique. Le magistrat. C'est un type de personne humaine. Pas nier. C'est une personnalité particulière, c'est une personne humaine d'un type particulier. Ça, je crois qu'on ne peut pas le nier. Je n'ai pas dit comme ici. 8. Ce que vous en voyez encore. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, travailleur.
Vous voyez, quand le travail n'implique pas une note artistique, il ne présente pas une personnalité. Vous avez l'ouvrier. Et au fond, c'est ça qui fatigue. Il n'y a pas une personne. Alors que l'artisan est une personne. Et celle-là, c'est une chose très importante. Parce qu'au fond, quand il n'y a pas un type de personne, on suit. les traites. Alors, l'artisan là, il y a des ouvriers qui le trouvent, hein, des ouvriers qualifiés. Il y a envie de qualifier, parce qu'il y a d'autres personnes. Il va toucher quelque chose d'artistique. Alors. Quand je prends artistique, il le prend au sens le plus large, hein, lié au travail. Oui.
Le militaire entre-t-il dans le religieux ?
Le militaire. Ah. Le militaire rentre dans le politique. Vous avez raison. Le militaire qui est militaire, qui en fait sa vie, qui a un titre personnel, pas le piou-piou qui fait son armée. Hein, alors là, à ce moment-là, c'est comme l'ouvrier, vous voyez. C'est comme vite que ce soit là, terminé. Hein. Alors vite que ce soit terminé, le plus vite possible. Alors à ce moment-là, il n'y a pas personne. Tandis que là, il y a une personne, c'est très bien, celui qui avait un chef, le chef militaire, l'officier militaire, qui est vraiment dedans, il y a un type personnel. Alors là, il y aura différent, hein, parce que vous le verrez surtout dans la marine et l'aviation. Il y a des types particuliers, très particuliers. Dans la marine, ça se voit beaucoup plus, mais ça se voit aussi dans l'armée de terre, si vous le trouvez. Et alors vous avez des modalités différentes, exactement comme vous avez des modalités différentes dans le milieu artistique. Et ça, c'est des modalités différentes, c'est le même. Alors, y a-t-il encore autre chose ? Le philosophe. Le philosophe, c'est le contemplatif. C'est le contemplatif. L'éducateur, hein, c'est pas l'œil politique. L'éducateur, il y a un type. Vous comprenez que l'éducateur, ça touche l'artiste, mais c'est pas uniquement l'artiste. Mais ça touche l'artiste. Il y a un art d'éducation. Mais c'est un art très particulier, parce que c'est un art où il ne s'agit pas de sculpter, où il s'agit d'être serviteur d'un vivant. D'un vivant qui est un homme vivant. Pour permettre à la personne de l'autre de pouvoir l'éducateur. Alors vous allez me dire, et celui qui enseigne. L'éducateur et l'enseignant, les deux choses se tiennent, c'est sûr.
Et le médecin.
Le médecin, c'est pas bien.
C'est
comme le dictateur. Vous voyez, alors là, vous touchez à l'art par rapport au vivant. C'est ça qui est très curieux. Mais c'est vrai qu'on peut mettre là le médecin. Médecin, chirurgien, un type d'homme particulier, un type de personne particulière. Ils se reconnaissent. Alors vous allez mettre le vétérinaire. Hein. Et ça existe. Hein. Je me souviens, c'était dans le train, c'est ici en Suisse. Dans le train, je me demande qu'est-ce qu'il faisait en civil et en militaire. Il a dit, je suis vétérinaire. Il a dit, tiens, pourquoi ? Ah oui, parce que j'ai reconnu que les animaux étaient autrement plus fidèles que les hommes. Que je connaissant. Alors c'était évident. Alors c'est pour ça qu'il était venu. Il avait commencé ce métier, puis il était devenu vétérinaire. C'est quelque chose. Alors c'est un médecin. Oui, alors là, c'est les arts, c'est les artistes. Mais l'art par rapport à une matière vivante. Là, il y a quand même quelque chose de différent. Il y a un type d'homme particulier, un type de personnalité particulière. Voilà, je crois, les exemples. Le sportif. Ah, est-ce que le sportif donne une personnalité ? Ou est-ce que c'est tout simplement l'artiste ? Est-ce que le sportif, c'est une personnalité ? On voit le professeur de gymnastique. Le sportif. Est-ce que c'est un type qui va s'intéresser ? Il faut se poser la question. Hein. Ici, j'énumère, je n'ai pas encore fait la critique. Hein. Enfin, la critique, c'est plus ça, hein, vous me rappellerez. Hein, parce que je ne prends pas de notes, vous me rappellerez. Mais il faudra faire la critique pour essayer de comprendre quel est le type particulier de la personne dans ces différents aspects. Ça, c'est très important. On rejoint par là toute la philologie. Marc Scheller donne ces choses-là, les grands types. Alors on verra s'il faut garder tout cela, il faut laisser tomber. À première vue, on a les choses. Alors vous mettrez le prêtre, le médiateur. Il y a un fond. C'est le point de vue religieux. C'est le point de vue religieux. Donc, c'est bien joué. Vous, qu'est-ce que vous mettez? Qu'est-ce que vous dites?
Donc, pourquoi le religieux est-il lié tout de suite au service et à une dimension donc communautaire?
Parce que je l'ai contemplatif en dehors.
Et le religieux, c'est l'adoration?
C'est l'adoration. Oui, mais c'est l'adoration liée à l'aspect service. L'adoration, c'est servir Dieu. Et là, il y aura ce service Dieu qui va, en plus, va devenir une louange, une adoration, un remerciement, une demande, et tout ça. Et alors, vous porterez, et ce sera lié au sacrifice. Alors, il y aura tout l'esprit communautaire. Oui. L'adoration va se compléter dans un sacrifice qui va être communautaire, qui va devenir le service. Et à la tête de ce service, il y aura le prêtre. Oui. C'est pour ça que c'est lié à l'aspect religieux, le prêtre. Alors, on demande des sorciers. Est-ce que le sorcier est une personne particulière, hein? C'est vrai, au point de vue philosophique, il y a la question du sorcier. Les sorciers, le mauvais point d'interrogation. Sportif et sorcier, vous voyez, c'est les deux grands points d'interrogation. Est-ce que le sportif et le sorcier? Le sorcier, il est quand même... Est-ce que c'est une personne? Parce qu'on peut rêver d'être un sorcier.
Ça
va être
la médecine, non?
Quoi?
C'est
bien la médecine. Moi aussi.
C'est un genre de médecine particulière. Hein? Les sorciers pour emprisonner. Les sorciers... Pour guérir de l'empoisonnement. Mais c'est une sorte de médecine. On est très bien là. Vous voyez, comme il y a aussi au point de vue religieux, hein. Au fond, le sorcier va être entre le point de vue religieux et le point de vue médical. C'est très curieux. Il y a un lien entre les deux. Hein. Entre les deux, le médecin et le prêtre, il y a le sorcier. C'est curieux, les dégradations. Hein. Parce qu'alors, à côté de la personne, il y a les dégradations. Il y a les antiformes, vous voyez ? Et c'est vrai qu'il y a le sorcier, ça. Figure assez particulière. Parce que Marc Scheller parle du sorcier comme personne. Et c'est vrai, c'est un titre. Ça joue un rôle, le sorcier. Un sorcier, ça, c'est quelqu'un. On a peur de lui. On a peur de lui parce que justement il a des procédés tout à fait particuliers qui risquent de nous empoisonner. Alors on fait attention. Bon, vous réfléchissez là-dessus, on verra si la fois prochaine, dans 15 jours, si de fait on peut, à l'égard de ça, préciser les différentes modalités de la personne humaine.